France Musique.
Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdi gamınla doldu bu gönlüm. Bayramı imdi, bayramı imdi, yar ile bayram ilerler şimdi. Bayramı imdi, bayramı imdi, yar ile bayram idersin şimdi.
France Musique. Planète Cora. Aliette de la Lune.
On chante des berceuses dans l'intimité d'une chambre. On se retrouve autour de musiciens, de musiciennes pour danser sur la place du village. On célèbre le printemps ou l'hiver en chantant, en défilant, en se costumant. Les musiques traditionnelles vivent ainsi au cœur du quotidien et des moments partagés. La question de leur place dans des lieux dédiés se pose depuis longtemps, portée par des institutions, des associations, des chercheurs et des chercheuses. Elle entre aujourd'hui en résonance avec des réflexions contemporaines, notamment celles issues des approches décoloniales qui invitent à repenser nos manières de regarder, de transmettre et de préserver ces traditions. Comment accompagner au mieux ces pratiques sans les figer? Quel regard porter sur leur sauvegarde? Et de quelle manière documenter les traditions orales tout en respectant leur vitalité et leur contexte vivant? Aujourd'hui, nous recevons trois invités pour tenter d'éclaircir ces interrogations et ces notions. C'est une émission dédiée à la Maison des Cultures du Monde qui a annoncé sa fermeture en décembre dernier. L'occasion de revenir sur plus de 40 ans au service des musiques, des pratiques, des traditions, des spectacles et des coutumes du monde entier. Bonjour et bienvenue dans Planète Okora.
Yaman trandafil mo yaman bozilo
Bonjour Nolwenn Blanchard.
Bonjour.
Vous êtes docteur en anthropologie et sociologie. Vous vous intéressez entre autres aux archives, au collectage, à la mise en patrimoine. Et vous avez notamment beaucoup travaillé sur le Gabon. Et vous étiez donc co-directrice de la Maison des Cultures du Monde. Vous nous parlerez de l'avenir de cette structure qui a fermé ses portes en décembre dernier. Merci beaucoup d'être là.
Merci pour votre invitation.
Et vous êtes accompagné par Pierre Bois, qui est ethnopsychologue. Après plusieurs années au Centre culturel français de Damas, en Syrie, vous rejoignez l'équipe de la Maison des Cultures du Monde en 1988. Et deux ans après, vous dirigez la collection discographique sous le label Inédit. Et puis vous coordonnez l'ouverture du Centre de documentation des spectacles du monde à Vitré, où s'est par la suite installée la Maison des Cultures du Monde. Bonjour et merci d'être là.
Merci, bonjour.
On ouvrait cette émission avec un disque que vous connaissez bien, l'Albanie, avec les polyphonies vocales du Pays Lab. C'est un disque sorti en 94. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, peut-être le projet, les souvenirs que vous avez de ce projet-là en Albanie ?
L'Albanie était, comme vous le savez, jusqu'en 1992, un pays totalement fermé. Un ethnomusicologue, Bernard Lorte-Jacob, avait eu la chance de pouvoir s'y rendre et d'y faire de premiers enregistrements qu'il avait publiés dans la collection du Musée de l'Homme. Et donc, je m'étais dit, parce que, outre mes fonctions au sein de la collection et par la suite du centre de documentation, je participais également à la programmation des concerts et des spectacles. Et donc, je m'étais dit que ça serait intéressant de faire une programmation de concerts de musique d'Albanie. Il y a trois grandes traditions polyphoniques dans le sud de l'Albanie. Le nord, ce sont des musiques monophoniques. La tradition lab, dont on a eu un exemple avec ce disque, la tradition tosque, qui est à mon avis un petit peu moins intéressante, et la tradition cham, qui elle s'apparente aux musiques de l'Épire en Grèce. Ce sont les mêmes, un peu les mêmes musiques. Et donc en labri, comme on dit en Albanie, dans le pays lab, dont il y a ces polyphonies tout à fait étonnantes avec un deux solistes, un preneur et un répondeur ou un rendeur, et puis le chœur derrière. Et sont généralement des chants épiques, des chants historiques, parfois des chants d'amour. Voilà. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire cette première mission en compagnie de Françoise Grund, qui à l'époque est notre directrice artistique. On est arrivé là-bas, mon contact sur place, Benjamin Crouta, donc, qui était le directeur du centre, venait de mourir, en fait. Donc les gens du centre nous ont accueillis sans du tout savoir ce que nous venions faire et ce que nous attendions. Mmh. Et en l'espace de quelques heures, ils nous ont monté une mission, une tournée, en fait, dans le sud du pays, où on a pu voir une quinzaine de groupes des différentes régions du sud, et notamment donc cet ensemble de Girokaster, qui accessoirement était la ville de Enver Hoxha, le dictateur albanais pendant de longues années. On a pu donc écouter cet ensemble et l'inviter à Paris pour des concerts, et donc ce disque est un enregistrement de ces concerts.
Les éditions discographiques du label Inédit représentent assez bien, en sens large, les missions de cette maison des cultures du monde, c'est-à-dire que c'est de la recherche, de terrain, avec des chercheurs, des chercheuses, le partage, la transmission, Nolwenn.
Oui, on peut dire un peu que la mission principale de la Maison des cultures du monde, c'était de mettre en lumière les différentes pratiques traditionnelles qui se faisaient de par le monde, de le montrer au public français et de participer à donner la parole à ces peuples et de laisser des traces aussi pour participer à leur transmission. Et donc le label de disque était un des axes majeurs, puisque ça permet de faire une collection un peu à vocation patrimoniale, puisque ça a permis de fixer sur des supports durables de nombreuses traditions qui sont venues en France.
Et dans ce cadre-là, il y a eu certaines anthologies. On va en écouter un tout petit extrait.
Yeah.
un très court extrait d'une des 11 noubas enregistrées dans cette anthologie qui s'appelle Al Ala. Pierre Bois, un petit mot sur cette anthologie et peut-être aussi le rôle des politiques à l'époque. On est en 89 quand l'anthologie sort, entre la France, le Maroc et l'importance de ces rôles politiques dans le cadre de la Maison des Cultures du Monde et du label Inédit.
Alors en fait, oui, c'est le premier volume de l'anthologie qui est sorti en 1989. Ensuite, la publication, puisque c'était 11 coffrets totalisant 73 disques, ça nous a pris à peu près 3 ans pour tout enregistrer. Le ministre de la Culture marocain de l'époque, Mohamed Ben Aïssa, qui se trouvait être un grand ami de Chérif Khaznadar, le directeur de la Maison des Cultures du Monde, cherchait une collection de disques pour pouvoir enregistrer l'intégralité de la musique arabo-andalouse classique du Maroc, donc Al-Ala, dirigée par les vieux maîtres qui vivaient encore à l'époque. Cette musique est une musique qui est de tradition orale depuis, disons qu'elle s'est forgée vers le XIe siècle, donc qui s'est transformée énormément au fil des siècles, mais qui s'est fixée autour du XVIIIe. On a fixé les poèmes dans un recueil qui s'appelle le Kounash, mais les mélodies se sont toujours transmises de manière orale. Et comme par un procédé, je dirais, de transformation, d'agrégation, chacune des suites qui composent ce patrimoine, donc les noubas, ce qu'on appelle, ça n'a rien à voir avec l'expression faire la nouba. La nouba est quelque chose de très sérieux, c'est une suite vocale et instrumentale qu'on trouve en Algérie, en Tunisie, au Maroc, chacune évidemment avec ses répertoires et ses styles différents. Et au Maroc, donc, il est au 19e, disons, cristallisé un répertoire de 11 noubas, dont chacune dure entre 5 heures et 8 heures, parfois plus selon les versions, les variantes régionales. Et donc le but était d'enregistrer cette intégralité dans la mesure où seuls quelques vieux maîtres les connaissaient complètement. Et ensuite, donc, on a publié tout cet ensemble, alors pour les Marocains sous forme d'un coffret unique, mais la collection Inédit a publié chaque nouba séparément au fil des années, pour ne pas saturer le marché, si je puis m'exprimer de cette manière horrible.
Nolwenn Blanchard, j'ai annoncé en début d'émission que la Maison des Cultures du Monde avait fermé officiellement en décembre. Pourquoi cette décision est tombée ?
La Maison des Cultures du Monde, historiquement, était soutenue principalement par le ministère de la Culture et qui, dans ces temps actuels de restrictions budgétaires et où finalement c'est plus forcément ces esthétiques-là qui sont prioritaires, le ministère de la Culture a décidé de couper les subventions. Et donc comme c'était notre principal financeur, on ne pouvait plus continuer nos activités, ce qui est bien dommage. Et de nombreux partenaires et artistes nous ont témoigné de leur soutien face à cette nouvelle.
Et une des missions justement de cette Maison des Cultures du Monde, c'était de soutenir des artistes qui viennent de cultures du monde entier, mais qui vivent en France depuis longtemps. Et je me tourne vers notre troisième invité autour de la table, Kutsi Erkuner. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de Turquie, vous êtes né à Diyarbakir, installé en France depuis les années 70. Oui. Et vous êtes un fidèle de la Maison des Cultures du Monde. Est-ce que vous pourriez nous partager un vieux souvenir avec cette Maison des Cultures du Monde, peut-être des premiers concerts?
Ce qui est extraordinaire avec la Maison de Culture du Monde et le travail de Chérif Khaznadar et Françoise Grund, c'était de présenter ces musiques non européennes telles qu'elles sont, sans faire une adaptation pour un public européen. Donc ça s'appelait le Festival des Arts Traditionnels à Rennes. Et j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir rencontré à Françoise en 1974. Donc c'était le premier concert qu'on a fait à Rennes. Après, c'était donc une collaboration à vie avec Chérif et Françoise. On a fait plusieurs projets. On a invité d'autres ensembles. J'étais un peu le pionnier, le pont entre d'autres musiciens turcs à faire inviter des groupes, des communautés, soufis, etc. Donc c'était vraiment une aventure. Et que je suis vraiment ravi qu'on a pu partager ce moment. Et après, donc, ça, le tournure est devenu World Music, qui est encore une autre version de musique traditionnelle, parce que c'est ce que j'appelle le World Music, c'est un peu fusion avec le pop anglophone, etc. Donc, mais des expressions pures et authentiques ont été promues par Sherif Krasnodar et Françoise, d'abord à Festival de Rennes, après à Maison de Culture du Monde. C'était quand même une occasion inouïe pour nous, les artistes non européennes.
Vous êtes un maître de la flûte ney et vous nous faites le plaisir d'être venu avec, avec votre instrument. Est-ce que vous accepteriez de nous jouer quelque chose? Et peut-être un petit mot d'introduction sur ce que vous allez nous jouer en studio aujourd'hui.
Alors d'abord, j'aime pas beaucoup le mot maître parce que c'est un peu exagéré, n'est-ce pas? Donc on aime une musique, on essaye de le partager au mieux qu'on peut faire, mais c'est donc le sujet est immense, donc on peut pas maîtriser le globalement, surtout comme, pour moi personnellement. Et il y a deux choses, parce qu'on a parlé tout à l'heure de problèmes politiques, n'est-ce pas? Donc il y a des frontières politiques et aussi des frontières culturelles. Donc moi, quand même, je viens d'Istanbul, et mes frontières culturelles, ça va de l'Inde jusqu'au Balkan, n'est-ce pas? Donc j'ai essayé de voir un peu d'autres collaborations, de promouvoir aussi, de collaborer avec des artistes venant de tous ces pays. J'ai joué avec des Indiens, avec des Japonais, etc. Donc c'est, pour moi, le monde musique s'est divisé en deux. Il y a la tonalité européenne avec la gamme tempérée, il y a aussi le non tempéré et avec un tempérament très particulier de musique non européenne qui sont purement mélodiques, n'est-ce pas? Et donc ça concerne quand même aussi l'Europe médiévale, n'est-ce pas? Avant qu'on se met en polyphonie, on se met à la gamme tempérée. Donc tout ce monde, pour moi, c'est pas ni turc, ni grec, ni arabe, c'est mon monde.
Voilà. Et vous allez nous jouer quelque chose?
Alors on a une forme, parce que quand je suis seul, j'aime pas trop jouer des répertoires construits. J'aime bien ce qu'on appelle le taksim. Taksim, c'est une improvisation sur une mode particulière. Et bon, je vais vous faire un taksim en makam sega, si vous voulez bien.
Avec grand plaisir.
Plaisir pour moi. Oh,
Kutsi Ergüner avec le Ney dans notre émission Planète Okora autour de la Maison des Cultures du Monde. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite.
France Musique, Planète Okora, Aliette Delalleux.
Cette fois, nous voyageons en Corée, un extrait d'une autre anthologie autour de la musique coréenne, notamment l'art du shinawi. Pierre Bois, c'est quoi l'art du shinawi ?
Alors, le shinawi, c'est la musique chamanique que l'on peut trouver lors de rituels, donc de rituels notamment de funérailles, ou qui suivent des funérailles, en particulier dans l'île de Jindo, qui est donc une des îles qui sont au sud de la Corée. En fait, c'est une musique qui s'apparente à d'autres formes. Je pense en particulier au pansori, qui est un chant accompagné par un tambour, et également à une musique de soliste qu'on appelle le sanjo, où là, il s'agit d'un instrument qui est accompagné par un tambour. On peut dire que c'est une musique qui est semi-improvisée, dans le cas du sanjo, une improvisation un peu en solo, comme... finalement, ce qu'a pu faire notre ami Kutsi tout à l'heure sur le Ney. Mais là, dans le cadre du Chinaoui, c'est une improvisation collective. Alors, je dirais que c'est une semi-improvisation, en fait, sur des clichés, des motifs mélodiques sur lesquels tout le monde se retrouve, mais que chacun interprète à sa manière, ce qui crée un effet d'hétérophonie, hein, donc, et non pas de polyphonie, mais d'hétérophonie. Et tout cela est commandé par des structures rythmiques, des rythmes qui s'enchaînent. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis le Maroc jusqu'à l'Extrême-Orient. Et on commence par des rythmes lents, et puis peu à peu, les rythmes, on choisit des rythmes qui vont de plus en plus vite, qui sont de plus en plus courts et de plus en plus rapides, afin de créer un effet de climax.
On a préparé ensemble cette programmation musicale pour pouvoir entendre plein de choses. C'est évidemment pas du tout exhaustif. Nolwenn Blanchard, un petit mot peut-être aussi sur ce que porte la Maison des Cultures du Monde. C'est énormément d'archives. Alors, on a les disques, mais il y a encore d'autres archives. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'on peut retrouver en tant que public mélomane grâce à la Maison des Cultures du Monde ?
Le Shérif Khaznadar et Françoise Grün, dès les débuts en fait, de la Maison des Cultures du Monde, ont eu la volonté de garder des témoignages, des traces de toute la programmation et des artistes qu'ils faisaient venir. Et donc, dès les débuts, ils ont tenu à faire des captations vidéo, des photos, sachant que tout était aussi très bien documenté en travaillant en collaboration avec des chercheurs. Donc, il y avait beaucoup aussi d'accompagnement scientifique et de vulgarisation pour expliquer aussi au public dans quel contexte les musiques qu'ils programmaient venaient, enfin, dans quel cadre ça se jouait dans les pays d'origine. Et donc toute cette matière-là a été conservée depuis les années 80. Et donc moi, quand j'ai commencé à travailler à la Maison des Cultures du Monde en 2014, j'étais chargée justement de traiter, de conserver, de valoriser toutes ces archives. Donc c'est une immense masse de documents.
On a une idée du nombre ?
Et il y a plus de 3000 vidéos, je pense, au moins 60 000 photos. Beaucoup de textes aussi qui accompagnent, qui ont été écrits par les chercheurs, par les membres de l'équipe tout au long de ces années. Et donc toutes ces archives sont conservées dans une base de données qui est disponible en ligne gratuitement, qui s'appelle In Batuta, et qui permet d'accéder à tous ces spectacles. Donc il y a une grande partie pour les années 80 à 2000 qui n'est pas encore en ligne. Mais ma volonté, c'est de faire vivre encore, de préserver cet héritage au moins, malgré la fermeture de la Maison des Cultures du Monde, sachant qu'il y a vraiment des pépites, puisqu'il y a des artistes qui n'étaient jamais sortis de leur pays, où il n'y avait pas forcément d'enregistrement qui était fait chez eux. Donc finalement, des fois, c'est le seul enregistrement, il est conservé par la Maison des Cultures du Monde.
Et donc sous quelle forme ça va pouvoir être continué, en fait, tout ce travail que vous faites ?
Moi, j'étais assez marquée par l'annonce de la fermeture de la Maison des Cultures du Monde, parce que j'étais vraiment attachée en tant qu'ethnomusicologue à cette structure qui permettait de faire vraiment le lien entre les chercheurs du milieu des ethnomusicologues et le grand public et les artistes, puisque la Maison des Cultures du Monde permettait de faire le lien justement entre la recherche des émotions esthétiques, mais tout en se basant sur des savoirs validés un peu par la science. Et donc, dans le contexte mondial actuel, je trouve que c'est d'autant plus nécessaire de résister et de continuer à faire la promotion de la diversité culturelle. Et donc, j'ai créé une nouvelle association qui s'appelle la Maison du patrimoine vivant. Donc, c'est une toute jeune association qui n'a pas la prétention de remplacer la Maison des Cultures du Monde et qui fera des choses à une plus petite échelle, mais qui au moins pourra faire survivre au moins la base de données et puis l'esprit aussi de la Maison des Cultures du Monde, de donner la parole aux différentes cultures traditionnelles qui existent dans le monde, en essayant de continuer à construire différents projets artistiques, culturels, scientifiques.
Et on va parler des projets artistiques et des spectacles notamment qui ont pu être donnés dans ce cadre de la Maison des Cultures du Monde. Mais pour introduire ça, on écoute d'abord cette musique.
Hello!
un chant des Pygmées Bédjan du Cameroun, extrait d'un disque sorti sur le label Inédit Maison des Cultures du Monde. La Maison des Cultures du Monde, c'était aussi des concerts, des spectacles avec une volonté de préserver l'authenticité du rituel, de la manière dont ces musiques pouvaient être données, jouées. Pierre Bois, avec cet exemple, est-ce que vous pourriez nous parler de peut-être parfois les difficultés ou les impossibilités qui ont pu se présenter à vous dans cette volonté de montrer au public occidental, français en l'occurrence, des musiques d'ailleurs?
Je préfère parler des possibilités que des impossibilités. pour reprendre donc l'exemple effectivement des Pygmées Bédjan, pendant très longtemps, la Maison des Cultures du Monde s'était interdit de programmer effectivement des peuples considérés comme fragiles, Pygmées, certains peuples également d'Amazonie. Et finalement, en 2000, on a sauté le pas. J'ai eu cette possibilité de me rendre donc dans le centre du Cameroun, en ce qu'on appelle le pays Tikar, et j'ai eu la chance de rencontrer deux jeunes doctorants en ethnomusicologie qui ont d'ailleurs enregistré toutes les pièces qui sont sur le disque qu'on vient d'entendre. Donc là, il ne s'agit pas d'une captation de concert, mais documents de terrain. Qui m'ont dit, ça tombe bien, nous serons sur place à ce moment-là et nous, on travaille sur les Pygmées Bédjan. Donc avec eux, j'ai pu faire la tournée de plusieurs campements et je me suis aperçu, au contraire, de l'extraordinaire solidité culturelle de ces gens et finalement... À part, je dirais, les aspects pratiques, ça ne posait aucun problème de les inviter à se produire en France. Les Pygmées, je crois, vivent pour la musique et toutes les traditions orales. Ils ont une culture matérielle souvent assez fruste, mais en revanche, une culture orale extrêmement riche, et notamment dans le domaine musical. Et donc, c'est quelque chose qu'ils possèdent en eux-mêmes et qui n'ont aucune difficulté finalement à présenter. Alors, la difficulté, en revanche, était donc d'ordre assez pratique, c'est-à-dire qu'il fallait, à partir de chants qui sont des chants, comme vous avez pu entendre, des chants cycliques, c'est-à-dire qui peuvent durer le temps que les gens veulent. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Un chanteur démarre, les autres vont s'agréger à lui. Au début, ils vont simplement chanter les thèmes et puis ensuite, ils vont apporter un certain nombre d'ornements au fur et à mesure. Comme souvent, c'est accompagné de danse. Bon, on chante et on danse jusqu'à ce que tout le monde soit épuisé. Bon. Ou ait envie de chanter un autre chant, puisque le répertoire est très très riche. Donc la difficulté qui se posait avec eux était d'une part de leur faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une séance dans le campement qui pouvait commencer à n'importe quelle heure et durer toute la nuit autour d'un feu de camp, qu'il y avait une durée qui était limitée, un horaire qui était relativement strict, et surtout arriver à maintenir les chants dans une durée suffisamment courte, mais en même temps avec un maximum d'intensité, pour pouvoir proposer au public un programme, et que le programme était annoncé à l'avance, puisque nous fournissons des notes de programme au public, donc ils doivent savoir ce qui va être présenté. Donc il fallait que l'ordre soit respecté, il fallait que les durées permettent de présenter, en l'espace d'une heure et quart, une heure et demie, une vingtaine de chants, de danse du répertoire. Et finalement, ce sont eux qui nous ont dit, trouvez-nous une solution. Et on leur a proposé de travailler à la montre. Tout simplement. Donc Fabrice Marandola, donc était un des jeunes ethnomusicologues qui était évidemment présent, qu'il connaissait bien, s'était mis devant le public avec une montre et puis il faisait un peu le chef d'orchestre, quoi. Il leur donnait les tops, mais pas de manière autoritaire. C'est-à-dire que en fait il leur donnait juste des repères. Hein, et à partir de là, eux se sentaient totalement libres. Et moi, j'avoue, on a été absolument épatés. C'était la première fois qu'ils se présentaient devant un public. Ils n'étaient jamais sortis de leur village. Ils ont saisi la scène, le public, avec une autorité et une aisance qui m'ont... encore aujourd'hui, ça me confond.
Si on veut approfondir ce sujet, parce qu'on n'aura pas le temps dans le cadre de cette émission, j'invite les auditeurs et auditrices à écouter un carnet de voyage dans lequel vous étiez invité en 2015 avec Édouard Fourré-Colfutti,
oui.
qui parle vraiment de ce sujet. Et aussi, j'invite les personnes qui nous écoutent à écouter, il y a plusieurs vidéos sur cette thématique sur la chaîne YouTube de la Maison des Cultures du Monde sur du terrain à la scène, comment on fait avec des chercheurs, chercheuses qui parlent de ce sujet. On va maintenant passer à un autre pays. C'est un petit voyage en Équateur que nous vous proposons. Nolwenn Blanchard, je vous laisse le soin de présenter en quelques mots ce qu'on est en train d'écouter.
Alors c'est le collectif Umazapas qui vient des communautés Quichua d'Équateur. Et donc c'est un projet que la Maison des Cultures du Monde a accompagné dans le cadre du prix de la Maison des Cultures du Monde. Donc c'est un prix qui a été créé en 2013 pour accompagner un étudiant, souvent en ethnomusicologie ou travaillant sur... des communautés, des pratiques artistiques d'un autre pays, enfin voilà. Et donc ce prix permettait d'accompagner un étudiant pour l'aider à s'occuper de toute la logistique pour monter un spectacle. Donc c'était une bonne opportunité pour les étudiants finalement qui étaient souvent dans le milieu de la recherche de sortir un peu de ce milieu-là et de se confronter à la production d'un spectacle à la manière de la Maison des Cultures du Monde qui était assez spécifique. Et c'est aussi pour ces étudiants, mais même de manière générale pour les ethnomusicologues, une manière de rendre un peu quelque chose aux populations qu'ils étudient. Parce que souvent, l'ethnomusicologue, il va sur le terrain, c'est lui qui est un peu en demande, qui est accueilli par les populations. Et finalement, là, de permettre aux chercheurs, aux étudiants de faire venir les groupes en France, bah, ça leur permet aussi de rendre quelque chose à ces populations et de les mettre en lumière d'une autre manière. Et dans le cadre de ce groupe Umazapas, c'était avec la chercheuse Sissa Kalapi, et ça a permis de lancer aussi ce groupe pour qu'il puisse faire des tournées en Europe et faire la promotion de leur culture, de leurs pratiques, sachant qu'en Équateur, ils subissent aussi certaines répressions de la part du régime, donc ils n'ont pas forcément droit à la parole dans leur propre pays. Donc le fait d'avoir un écho en Europe, dans le monde occidental, c'est aussi une manière de les soutenir, de les aider à transmettre leur tradition. Et ce qui était intéressant dans ce collectif aussi, c'est que c'est une jeune génération qui va à la rencontre des anciens dans leur communauté, dans leur village, pour susciter la transmission. En fait, c'est eux qui vont demander à ce qu'on leur transmette les traditions et qui les réinterprètent et qui les font revivre aujourd'hui. Et donc, la Maison des Cultures du Monde souhaitait accompagner leur démarche, parce que c'était une manière aussi de valoriser les pratiques de transmission qui se font aujourd'hui.
Kutsi Agener, on a entendu votre voix en tout début d'émission qui récitait un poème. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que c'était ce poème ?
C'était un poème du 15e siècle d'un soufi qui s'appelait Haji Bayram, qui est enterré à Ankara. Et ce qui est intéressant, ce poème a été composé pour la première fois à Herat par Sultan Baykara, qui était un descendant de Tamerlan. Alors c'est quand même incroyable, Herat et Ankara, ils sont deux personnalités contemporaines. Comment ce poème est arrivé jusqu'à Herat et était composé par Sultan Baykara. Et moi, j'ai découvert ça parce qu'à l'époque, à Istanbul, il n'y avait pas de concert. Donc, c'était des réunions privées. Et quand la musique était vraiment à un niveau très élevé, on disait comme si c'était la cour de Baykara. Alors, j'ai étudié un petit peu par les livres d'histoire. Et ce sultan était entouré par des poètes, par des personnalités comme Molla Jami, qui était un grand soufi, Ali Shir Nevai, qui a fait le premier dictionnaire de langue turque. Donc, c'était vraiment une période très élevée de cette cour. Et il a composé ce poème. Donc, si vous me permettez, j'ai eu quand même la chance d'être invité par le gouvernement allemand pour aller travailler avec des musiciens afghans à Kaboul pour les apprendre ces compositions de Sultan Baykara. On a travaillé avec la rebab afghane, etc. Donc, on a fait le premier concert au Musée de l'Histoire allemand à Berlin. Et c'est juste pour vous dire, on parle du monde, le monde est très vaste. Il y a une pluralité extraordinaire, il reste à découvrir plein de choses. Ce qui est vivant, ce qui pourrait être vivant, mais ce qui ne l'est pas. Donc ça demande de recherche. Ça, c'est le travail des artistes, de provoquer, les rendre vivants ces musiques. Et en tout cas, j'espère que des institutions comme celui de Maison de Culture du Monde vont renaître et continuer ce travail.
Thank you. Şayım ey nazenin ahu seni sızlayan ben ah edem ben bilmez ama ne için hepsi kalmış ağuşuna gah o seni gah bu seni Çarkı devranım yalla iltifatından mı buyur? Çarkı devranım yalla iltifatından mı bu? Cami ömrüm görmedim hiçbir zaman memlu seni. Eşki sehrasında ya. Eşki sehrasında sergerdan gezen bir teşneyem Sevgilim içsem ne olur şehdi zülalım bu senin Müşviga, müşviga iklim sevdaden ziyanın yok fakat Tir müjgan ile yıktı bir keman ebru senin Da ya 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 da.
La voix d'Alim Kazimov dans l'album Mougam d'Azerbaïdjan, disque qui fait aussi partie d'une anthologie portée par le label Inédit et la Maison des Cultures du Monde. On mettra toutes les informations et aussi les liens, on n'en a pas parlé, vers les concerts Musique d'ici, Musique d'ailleurs, qui ont été beaucoup portés par l'émission Au cours à couleurs du monde et c'est encore disponible à la réécoute. Merci beaucoup à nos trois invités, Nolwenn Blanchard, Koutsi Erguner et Pierre Bois, d'avoir été avec nous pour parler de cette Maison des Cultures du Monde. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci à vous.
Merci également à Max James qui réalise l'émission, à Maud Nourri pour la préparation, à Inès De Bruyne et Jean-Baptiste Etchepareborde pour la prise de son et la technique. On se retrouve la semaine prochaine à 14h et d'ici là, passez une très bonne journée à l'écoute de France Musique.
Mmh. biz bir qatar tut yeşirin xanlarıyıq. Biz bir qatar tut yeşirin xanlarıyıq. Öz nəğməmizlə zinəti sərvi çəmənləri. Gülünüz dülər təranəmizi. Gülünüz dülər təranəmizin həsrətin çəkir. Bağı vətəndə bülbül xoş nəğməzənlər gay da day da deməy.
France Musique.